Notre invité, il est là.
Mm-hmm, absolument.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Comment allez-vous?
Très bien vous-même.
Ça va bien, mais quand je regarde aller les affaires, je me dis, tabarouette, on a du travail, on a du pain sur la planche. Hydro-Québec, Énergir et Boralex, parc éolien, qui achètent leur acier en Asie au lieu de l'acheter au Québec.
Ben c'est difficilement, c'est pas vraiment surprenant quand on regarde par exemple les prix. C'est sûr que quand c'est le temps d'encourager local, on s'attendrait à ce que les sociétés d'État donnent l'exemple. Mais finalement, on voit qu'ils s'intéressent comme n'importe quelle autre entreprise à la question des coûts, puis ils vont chercher ça au moins cher. Donc c'est sûr que c'est difficilement justifiable. Mais en même temps, j'imagine qu'il doit y avoir une décision économique qui justifie tout ça en bout de ligne. Là.
Ah, je comprends qu'il y a de l'économie, mais si tu veux qu'on achète au Québec, ben, achète toi-même au Québec, là. Je veux dire, tu peux pas commencer à jouer les doubles standards. On voit de plus en plus des municipalités, des villes jouer dans la promesse de création d'emplois. C'est quand même bizarre, la ville de Québec. Bruno Marchand, hier, nous parle d'un 80 000 emplois, alors qu'il y a 549 000 habitants sur le territoire de la ville de Québec et tu as 280 000 à peu près travailleurs. Là, on nous promet 80 000 emplois qui ont un tramway, notamment, puis de l'immobilier, puis on va construire le stade, puis ils vont venir, là. Alors qu'on regarde les chiffres, là, un an, on nous parlait de 4 000 emplois seulement. On est rendu à 80 000. C'est quand même bizarre. Pourquoi les villes font ça? On s'auto-proclame, on est rendu comme des promoteurs de l'emploi.
Bon, on dirait que depuis plusieurs années, là, on observe dans les différentes municipalités du Québec qu'il y a des nouveaux maires et mairesses qui s'imaginent que leur objectif ultime, c'est de transformer la ville. Puis c'est nécessairement de créer un nouvel environnement qui va être digne de leur héritage comme tel. Puis on dirait que Bruno Marchand, il est un peu embarqué dans ces eaux-là. T'sais, on se souvient, à Montréal, on avait Valérie Plante est arrivée avec les histoires de lignes roses, de lignes bleues, de toutes les nouvelles lignes de transport qui finalement ne se sont jamais réalisées. Là, Bruno Marchand, lui, il décide d'y aller dans la surenchère d'emploi. Ben, on va dire franchement, c'est pas vraiment la job des villes de créer des jobs. Du moins, eux autres, en fait, le travail des municipalités comme des gouvernements provinciaux ou fédéraux, c'est plutôt de créer un environnement économique où est-ce que les jobs vont se créer d'elles-mêmes.
Ouais.
Là, dans ce cas-ci, bon, pour les 80 000 emplois que Bruno Marchand, auquel il fait référence, il n'y en a pas loin de la moitié qui irait dans la construction du fameux tramway que pas grand monde veut finalement, mais au final, il y a une partie des emplois qui irait là-dedans, puis le reste, ben, il mise beaucoup sur la construction. Mais faut dire une chose, dans la construction, oui, il y en a beaucoup du nouveau développement à Québec, mais c'est quand même pour la plupart, pas toujours, mais beaucoup des emplois temporaires. Fait que, je veux dire, s'il veut créer un environnement économique beaucoup plus intéressant, il devrait s'intéresser à un facteur qui est souvent oublié par les villes. J'ai été lire des rapports hier de la part de Altus Group et de Real Property Association of Canada, donc REALPAC. Puis eux autres, dans le fond, dans leur rapport annuel, ils démontrent que Québec, ben la ville de Québec et la ville de, ben plutôt la ville de Montréal, puis Québec sont les deux villes où est-ce que les taux d'imposition foncier pour les entreprises sont les plus élevés à travers tout le Canada. Ce serait peut-être intéressant qu'ils s'y intéressent. Autant, je sais que à Québec, il y a eu entre autres le respect citoyen qui en a mentionné là, de baisser de 10% le taux d'imposition pour les entreprises.
Ouais.
Mais dans l'ensemble, c'est pas vraiment quelque chose qui est souvent mentionné. Et pourtant, c'est bien un facteur qui ralentit les investissements puis qui fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de transferts d'entreprises. C'est justement que ça coûte extrêmement cher opérer des entreprises dans ces deux municipalités-là. Puis on n'est pas du tout compétitif quand on se compare avec les autres grandes villes canadiennes.
Est-ce que c'est les commerçants de Québec qui disaient ça aussi, hein, au niveau des taxations, des taxes municipales? Pour les commerçants, ça a explosé. Et il y avait eu des promesses, hein, il y a 4 ans, de baisser les taxes aux commerçants. On ne l'a pas fait. On n'a pas respecté cette promesse-là. Là, il y a des partis politiques qui veulent le faire. Mais clairement, et l'autre chose, on est dans le reprenariat. Là. On va donner 2 millions, selon une promesse de Bruno Marchand, 2 millions pour le reprenariat. Qu'est-ce que les municipalités font dans le reprenariat d'entreprise?
Ben c'est ça. Encore une fois, on essaye de façonner de notre manière l'environnement économique de la ville, puis on dirait que avec le reprenariat, ou du moins avec un programme de reprenariat, dans le fond, pour aider les entreprises à se transférer d'une génération à une autre ou d'un investisseur à un autre, je comprends qu'il y a quand même, on veut faciliter ça, mais il y a quand même d'autres manières de faire que de créer un fonds avec l'argent des contribuables de la ville. Faut quand même rappeler que la ville de Québec est pas non plus en termes de finances, n'est pas non plus dans les meilleures grâces. Il y a quand même une dette de 1,5 milliard, puis je veux dire, les comptes de taxes augmentent quand même à chaque année.
Oui.
Puis vous venez en plus d'encaisser une augmentation de la taxe sur le transport en commun. Donc, j'ose croire que cet argent-là devrait d'abord servir les citoyens dans leurs services essentiels. Puis c'est là-dessus, en fait, que les maires et mairesses devraient plutôt focusser plutôt que de s'imaginer qu'ils doivent redéfinir l'environnement, refaire la ville, créer une nouvelle ville 2.0. Puis là, dans le reprenariat, ben encore une fois, je reviens à l'argument que j'avais tantôt. Pourquoi ne pas considérer simplement de baisser les taxes ou de s'attaquer simplement à des mesures qui vont alléger fiscalement les entreprises plutôt que de créer des fonds avec l'argent des autres pour faciliter le transfert des entreprises?
Voilà, beaucoup de maires qui veulent aller sur le poster, hein, veulent léguer là, un grand leg alors que leurs finances, les dépenses des villes qui explosent. On a une autre problématique et on la regarde aller, c'est les dettes. Dettes au fédéral, dettes au provincial, dettes des municipalités. Et il y a quand même des données, là, on dit 2900 milliards, c'est 2030, ça. Ça pourrait faire boule de neige, hein, les dettes. Quand on accumule les dettes fédérales, provinciales, municipales, on est très endetté.
Effectivement, parce que souvent, on se présentait les finances publiques à Ottawa comme si on parlait juste de la dette fédérale comme telle, qu'elle s'est quand même doublée au cours des dernières années. Mais on oublie aussi que, contrairement à plusieurs autres pays, bon, au Canada, on a quand même une situation particulière où les provinces peuvent s'endetter, puis c'est rarement calculé au niveau de la dette nationale. Mais quand on regarde le tout, la dette nationale, présentement, elle s'élève aux alentours de 2,3-2,4 billions, ou 2300 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme. Et donc, on parle vraiment des dettes à la fois du fédéral et de toutes les provinces combinées. Et c'est là que le portrait devient beaucoup moins intéressant par rapport aux finances publiques canadiennes comme telles, et qui démontre qu'il y a vraiment un engagement assez important là, de la dette par rapport à la production économique. Et ben les dernières projections qui ont été mises de l'avant par le directeur parlementaire du budget au printemps dernier, ça nous démontre que ça va monter à pas loin de 80%. Là. C'est-à-dire que le ratio de dette PIB va être aux alentours de 80% quand on prend la dette nationale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, au final, c'est que le Canada vraiment est dans une spirale d'endettement qui n'est pas à veille de prendre fin. On sait que cet automne, on nous prépare sûrement un déficit record qu'on n'a jamais vu en temps de paix ou en temps de... ou est-ce qu'il n'y a pas de crise ou de pandémie, littéralement, un déficit de 100 milliards qui va venir alourdir l'ensemble de la balance. Puis au final, il faut rappeler, non seulement il y a des risques de décote, mais il y a un coût à ça, qui sont les intérêts sur la dette. Puis bien sûr, si on déconstruit le tout, on se rend compte que tant dans les provinces qu'au fédéral, ben les dettes augmentent. T'sais, au Québec, au cours des prochaines années, le coût de la dette, par exemple, ou du moins le coût de la dette provinciale, va nous être filé à concurrence de pas moins de 12 milliards de dollars par année. C'est-à-dire qu'à chaque année, les contribuables, on va payer avec nos impôts et nos taxes pas loin de 12 milliards de dollars, pas pour que ça aille en santé ou en éducation, mais pour que ça aille littéralement payer les intérêts de la dette du Québec. Puis après ça, on prend le fédéral, bien là, on risque de monter à pas loin de 70 milliards d'ici 2030. 70 milliards de dollars qu'on va payer en impôts et en taxes, qui s'en va nulle part d'autre que sous des intérêts sur la dette. Donc, ça commence à faire énormément d'argent. Il y a souvent des gens qui font miroiter l'argument selon lequel ben, le Canada, oui, a une grosse dette, mais le ratio de dette PIB n'est pas si pire que ça.
Ouais.
Mais c'est parce qu'ils ne prennent pas en considération le calcul qu'il faut pas juste calculer le fédéral. Il faut prendre le fédéral et les provinces. Puis après ça, on se rend compte que l'image est beaucoup moins sympathique qu'elle ne devrait l'être.
Et c'est pour ça que quand on voit les Québécois au niveau de la finance personnelle, puis on a les statistiques d'hier là, sur un Québécois sur deux qui est à 200 $ de l'insolvabilité, ben, c'est parce que les Québécois n'arrivent plus, là. Tu payes des impôts au fédéral, au provincial, puis les municipalités qui viennent t'en chercher davantage aussi dans tes poches. Fait en sorte que là, à un moment donné, il n'y a plus d'argent pour le reste.
Effectivement. Donc, on parle de l'endettement, mais au final, c'est pas comme si les provinces ou les gouvernements, quoi, qu'on a eu une petite baisse d'impôts fédéral, mais dans l'ensemble, on n'a pas eu beaucoup d'allègements fiscaux en contrepartie, donc on paye beaucoup plus cher à tous les niveaux. On s'appauvrit et malheureusement, on n'en a pas plus pour notre argent. Puis là, on se rend compte qu'au Québec, on est malheureusement des cancres à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on est sud avec la... où est-ce que vraiment le niveau de difficulté financière est le plus élevé, en fait. Puis même que c'est plus élevé qu'au dernier trimestre. Donc, oui. Ça démontre que la situation, elle empire. Faut rappeler qu'au Québec, là, on n'a pas eu beaucoup d'allègements fiscaux d'un point de vue provincial ou municipal. Il n'y a pas eu beaucoup de municipalités qui ont gelé leur compte de taxes au courant des dernières années.
Non, on augmente, puis on dépense beaucoup aussi, là.
Exact. Et sinon, ben, la dernière baisse d'impôts qu'on a eue de la part de François Legault, c'était quand même en 2023, c'était un point de pourcentage, puis c'était la première baisse d'impôts qu'on avait en pas loin de 25 ans. Fait qu'il faut voir, on peut se péter les bretelles, mais c'est quand même très insuffisant qu'on regarde tout ce qui a été ajouté comme au niveau du fardeau fiscal. Puis depuis ce temps-là, ben, les charges sociales sur nos payes ont augmenté. Les taxes sur le transport en commun ont augmenté dans à peu près toutes les municipalités du Québec. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait un ajustement qui se fasse puis qu'il y ait au moins un seul palier au Québec, municipal ou provincial, qui réalise que c'est insoutenable comme situation. Puis ça, ben, Ça vient avec non seulement la réalisation, mais aussi avec l'action. Il faut réduire les impôts et les taxes pour les citoyens. Mais le problème, c'est que je vois pas ça vraiment être promis par beaucoup de candidats ou candidates dans les différentes municipalités pour les élections qui ont lieu présentement. Puis à Québec, ben François Legault, pour l'instant, il patine beaucoup sur certains dossiers, mais ouais. Il recule pas sur la taxe carbone. Il a pas encore agi sur la taxe sur le carburant. Il a pas fait d'autres baisses d'impôts. Puis c'est pas comme s'il y avait beaucoup de marge de manœuvre non plus. Il faut rappeler avec l'état des finances publiques à Québec. Donc, finalement, c'est les contribuables qui attendent et qui n'ont rien en retour.
Oui, puis quand on se compare avec les Américains aussi, parce qu'il faut se comparer, nos entreprises payent beaucoup d'impôts aussi, donc on doit ajuster notre fiscalité. Ça devrait être fait dans les prochains trimestres peut-être, des prochaines années, rapidement, là, parce qu'aux États-Unis, on baisse les impôts des entreprises.
Effectivement. Fait que si on a peur présentement on observe déjà une exode des entreprises, des capitaux vers les États-Unis par crainte, en fait, en bonne partie des tarifs, on le sait. Mais là, en plus, si on se met à baisser les impôts, ça va attirer les entreprises pour d'autres raisons. Là, elles vont éviter les tarifs, mais elles vont avoir des taux beaucoup plus intéressants. Bon, on peut continuer à se vanter du fait qu'au Québec, on a de l'énergie qui coûte très peu, qui coûte vraiment pas cher.
On est en train d'en manquer aussi, on en manque là, de l'énergie, là.
Exact. Puis ça a été pendant plusieurs années, en fait, c'était un des principaux avantages stratégiques qu'on avait pour attirer les entreprises au Québec. C'est-à-dire, ben, au moins, oui, vous avez un régime fiscal qui n'est pas tout à fait intéressant, mais au minimum, vous avez quand même de l'énergie qui coûte pas cher. Mais là, si en plus on commence à manquer d'électricité ou sinon que le coût augmente parce que on a des gros projets d'investissement au Québec, pas loin de 200 milliards dans les 10 prochaines années, ben ça va se refléter quelque part sur les factures d'électricité. Puis ça, ben, ça va être filé aux entreprises comme aux particuliers.
Oui, exact.
Fait que malheureusement, on risque de perdre un avantage stratégique énorme au courant des prochaines années, en plein milieu d'une guerre commerciale. Puis en plus, quand les Américains deviennent beaucoup plus agressifs pour attirer des capitaux et des investisseurs étrangers. Fait que malheureusement, là, il va falloir vraiment qu'il y ait un coup de volant qui soit donné à quelque part. Comme je dis, que ce soit à Québec ou à Ottawa, ça serait bien qu'il y ait un alignement des planètes. Parce que pour l'instant, la stratégie, il n'y en a pas. Du moins, ça semble pas être très aligné. Carney, il vient de Washington, mais on sait pas trop ce qui s'est négocié au final, qu'est-ce qui a été concédé. Mais une chose est sûre, pour l'instant, on a des entreprises, même québécoises, qui doivent se dire, ben écoutez, si la situation continue, moi, je vais déménager mes opérations aux États-Unis, là, je veux dire, il faut que j'assure la survie de mon entreprise et que je maintienne encore les emplois autant que possible. Fait que si nos gouvernements ne le font pas, ben les Américains risquent de le faire à leur place.
Ou je ferme la shop. Parce que l'autre solution, c'est que je ne suis plus capable d'arriver. On en voit de ça, là. Tous les jours, il y en a, là. Des compagnies qui disent, regarde, moi, je ferme les portes, c'est fini, terminé. Je regarde aller l'affaire, les affaires. Les gouvernements ne donnent pas de break. On n'est pas capable d'ajouter notre taux d'imposition et on n'est pas compétitif. On va faire d'autres choses.
Exact. Malheureusement, je veux dire, chaque fois qu'une entreprise disparaît ou qu'elle fait faillite ou qu'elle déménage, je veux dire, il y a des jobs qui se perdent ici, mais en plus, c'est des revenus pour le gouvernement d'une certaine manière là, qui sont perdus également. Donc, je veux dire, on n'est pas du tout gagnant, en fait, à avoir un environnement qui est de moins en moins compétitif. Mais malheureusement, il n'y a pas cette réalisation-là pour l'instant. Au cours des dernières années, on a même observé que le Québec est moins intéressant pour les minières. Alors, je pense qu'on en avait parlé il y a quelques mois de ça, où est-ce qu'il y a eu un palmarès qui a été fait, puis finalement, le Québec est rendu beaucoup moins intéressant pour les investissements miniers. À un moment donné, quand c'est rendu que même les mines, alors que le Canada, c'est une genre de plaque tournante là, pour le secteur minier, quand le Québec n'est plus vraiment dans le palmarès, ça regarde très mal pour le reste.
Oui, bien, il y a toute l'histoire des royautés, mais hey, on regarde, là, l'or est rendu à 4000 $ US, l'once d'or. Les minéraux rares, qu'on appelle... Le Québec devrait avoir des investissements massifs dans ce secteur-là. On n'entend rien.
Non, on n'a rien là-dedans. Puis on pourrait même citer l'uranium aussi, où est-ce que les prix sont encore très intéressants. Ça, il y a littéralement un moratoire là-dessus depuis 2012 qui fait en sorte qu'on ne peut même pas y toucher ni faire de l'exploration.
Incroyable.
C'est totalement ridicule. Puis oui, pour l'or, je veux dire, quand on regarde les cours de l'or présentement, je ne suis pas pas nécessairement très ancré dans ce domaine-là, mais disons que ça indique quand même clairement qu'il y a des choses qui se passent au niveau de l'économie, qu'on se rapproche peut-être tranquillement d'une dépression ou d'une situation économique qui est beaucoup moins intéressante que présentement, d'où le fait que le cours de l'or est encore plus valorisé. Fait que le Canada pourrait vraiment profiter de cette situation-là, mais pour l'instant, on attend. c'est quand même assez particulier de voir un pays faire du surplace comme ça, mais c'est le constat qu'on doit faire à ce stade-là.
Et ce qui n'était pas le cas du Canada, là, peut-être 15-20 ans, là. Le Canada était toujours un pays où on investissait et où les investisseurs étrangers étaient les bienvenus. On voit plus ça, là. Donc, beaucoup de travail On peut-tu vivre d'espoir? Il y a des gens qui nous disent vous êtes négatif ce matin, mais c'est parce que moi, je voudrais être positif. Là. On va essayer de l'être. Là. Mais,
oui.
Mais tu sais, si on garde l'espoir, comment on peut analyser ça de façon positive? Est-ce que nos gouvernements doivent bouger rapidement?
Ben l'avantage, puis ça, c'est, oui, on peut donner une petite note d'espoir là-dessus, parce que généralement, quand on est aussi proche d'un précipice, c'est là que il y a un coup de volant qui est donné. Tu sais, c'est comme on l'a vu à Québec, par exemple, avec François Legault dans les dernières semaines, ou plutôt les derniers mois, en constatant son impopularité, il s'est mis à faire des 180 degrés assez spectaculaires sur un paquet de dossiers. Le Canada aussi, c'était assez fou, là, parce qu'au cours des 10 dernières années, le mot en P, là, pipeline, fallait quasiment pas le prononcer, à part pour Trans Mountain. Puis là, ben, à peine Justin Trudeau était sorti du décor que Carney arrive puis se met à en parler des pipelines, même s'il n'y en a pas vraiment sur la table, mais son projet de loi C5 ouvre pas mal, ben pas le projet de loi, ben carrément la loi C5 ouvre la porte à ça. Puis ça, ben, on s'entend que sortir les ressources naturelles du Canada, c'est un des principaux piliers, en fait, pour assurer la survie de l'économie puis aussi sa prospérité. Fait que ça, au moins, on sait que c'est tranquillement de retour sur la table, mais il va en falloir beaucoup plus que ça. Puis on s'entend que avec un gouvernement minoritaire à Ottawa, puis aussi un gouvernement très impopulaire à Québec, on se demande ça va être quoi la stratégie en fait qui va être mise de l'avant. Mmh. Mais une chose est sûre, quand je dis qu'on est sur le bord du précipice, il y a un coup de volant qui se donne, puis ben avec un peu de chance, ça va arriver juste à temps pour éviter qu'on s'enfonce davantage.
Parce que les options sont pas multiples, hein? C'est soit qu'on coupe puis on essaie de redresser le bateau, ou on s'enlise davantage puis on taxe puis on impose davantage nos citoyens. Et on le voit, le citoyen moyen, là, il est plus capable. Là. Il est au bout du bout. Là. Donc, c'est les solutions qui restent. Là. C'est un peu ça qu'on voit devant nous autres. Il y a des exemples. On peut aller en France, on peut aller dans d'autres pays. Là. Vous le voyez, comment ces économies-là sont embourbées. Ça va être à surveiller. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Merci beaucoup et on se reparle.
Ça fait plaisir. Merci à vous et à bientôt.
Bye-bye. Bye. Voilà. Le contribuable, lui, est dans le milieu.
Paye en temps.
Hein?
Il n'est plus capable de payer. Là.
Non, mais je veux dire, comprennent pas le message.
Je le sais.
De tous les paliers de gouvernement, ils comprennent
non,
pas.
Comprennent pas.
C'est des, on dépense comme s'il n'y avait pas de lendemain avec la carte et l'argent des autres. On met ça sur la carte. Ah ouais, let's go. Après la pause, le fou professeur Sylvain Charlebois débarque.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto. 418-670-9098.
Radio X.